Côté pile, l'image d'un papa poule qui n'acceptait pas qu'on lui ait retiré la garde de son fils. Côté face, un homme qui a multiplié les recours, les menaces et les insultes envers son ex-compagne pendant des années. Cédric Prison, 42 ans, a été interpellé le 24 mars dernier dans une ville portugaise après une cavale qui a duré 5 jours. Il est soupçonné d'avoir tué la mère de son fils après l'avoir enlevé dans l'Aveyron, mais aussi de s'en être pris à sa compagne actuelle. Les corps des deux femmes ont été retrouvés enterrés dans un lieu isolé au Portugal. Depuis plusieurs années, Cédric Prison dénonçait la perte de son droit de garde et criait à l'injustice sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il échangeait notamment avec d'autres pères séparés sur des groupes qui entretiennent des discours masculinistes. Alors comment ces mouvements de pères séparés alimentent la haine des femmes? Le passage à l'acte du quadragénaire était-il prévisible? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Stéphanie Lamy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, spécialiste des guerres de l'information et autrice du livre La terreur masculiniste. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ce travail de recherche que vous avez mené. Mais tout d'abord, Elisa, on va revenir sur ce double féminicide au Portugal.
Et tout démarre avec un avis de disparition. 5 personnes se volatilisent dans l'Aveyron le 20 mars. Cédric Prison, 42 ans, son ex-compagne de 40 ans, Audrey, leur fils de 12 ans, mais aussi la compagne actuelle de l'homme, Angela, et leur enfant d'un an et demi. Une quintuple disparition donc, et aussitôt un suspect qui se dégage, Cédric Prison lui-même.
Si les enquêteurs s'intéressent à lui, c'est parce qu'il a un profil particulier.
Oui, en effet, les policiers vont remonter le fil de son parcours. Ils vont découvrir qu'il vivait comme une injustice le fait d'avoir perdu la garde de son fils de 12 ans. Lorsqu'il s'était séparé d'Audrey, son ex-compagne, les deux s'étaient d'abord mis d'accord sur un mode de garde alterné. Leur relation n'était pas apaisée pour autant. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour des violences réciproques à 6 mois de prison avec sursis en 2021, puis en 2024 en appel. Le casier judiciaire de Cédric Prison va ensuite s'étoffer de plusieurs autres condamnations, notamment pour du harcèlement conjugal. Et au printemps 2021, il enlève son fils en Espagne en compagnie de sa nouvelle compagne Angela. Il est finalement intercepté au bout de 2 mois et il est reconduit en France par les autorités. Là, il va écoper d'une peine de 9 mois de prison aménagée sous surveillance électronique à domicile. Mais surtout, c'est à ce moment-là qu'il perd la garde de son fils. Il n'a désormais le droit de le voir que 2 fois par mois et en présence des services sociaux.
Et cette décision de justice, Cédric Prison, il la voit comme une profonde injustice.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'il se met à répéter de manière très soutenue sur ses réseaux sociaux. Ses comptes, ils ont depuis été désactivés, mais nous, on a pu un petit peu les consulter avant que ce soit le cas. Et dans de très nombreux messages vidéo postés sur Facebook, YouTube, X ou encore TikTok, il se montre très virulent. Il insulte son ex-compagne, la traite, je cite, de folle, de criminelle. Et surtout, il va développer tout un discours, toute une rhétorique selon laquelle la justice serait corrompue. Elle n'a pas rendu la bonne décision en donnant la garde exclusive du petit garçon à son ex-compagne. Et pour lui, au contraire, son fils est en danger auprès d'elle, alors qu'il se présente comme un père aimant qui sait parfaitement s'occuper de ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'il soutient dans ses publications.
Stéphanie Lamy, je me tourne vers vous à présent. Vous avez travaillé notamment sur ces profils de pères qui crient à l'injustice parce qu'ils ont perdu la garde de leurs enfants. Est-ce que cet argument d'une justice biaisée, partial ou corrompu, ça revient souvent chez eux?
Oui, ça revient souvent chez eux. Surtout, ils estiment que la féminisation du corps judiciaire affaiblit les démocraties et surtout que la loi des pères, la loi naturelle des pères, devrait être supérieure à celle de la République. Donc, on est sur du militantisme masculiniste dans la mesure où ils ne se prennent pas uniquement aux ex, mais également au système judiciaire, donc des institutions de la République.
Alors, si je vous entends bien, il y a aussi cette idée selon laquelle la justice est trop acquise à la cause des femmes pour rendre des décisions équitables.
Oui, justement, ils estiment que parce que les juges sont majoritairement des femmes, le corps judiciaire se féminise de plus en plus, elles ne seraient pas en capacité de rester neutres et vont juger en fonction de leur genre. Alors, on sait très bien que d'autres études, que ce n'est pas du tout le cas, que les femmes juges peuvent aussi être sexistes et vont rendre en fait des ordonnances de justice qui peuvent aussi être en faveur des pères, notamment violents. En fait, être déchu de ses droits, c'est l'exception, encore, malheureusement. pas la règle, mais oui, ces hommes-là estiment que la justice est injuste envers les hommes parce que hommes.
Elisa, pour en revenir à Cédric Prison, il ne s'en tenait pas à des publications sur les réseaux sociaux.
Non, il avait aussi manifesté en 2023 devant la mairie de sa commune, toujours pour dénoncer cette décision de justice et clamer haut et fort que son ex-compagne était une criminelle, toujours les mêmes mots. Il était d'ailleurs en compagnie d'autres pères séparés qui avaient eux aussi perdu la garde de leur enfant et qui dénonçaient également des jugements biaisés. Enfin, après cette quintuple disparition, certains titres de presse quotidienne régionale ont expliqué qu'ils avaient à plusieurs reprises par le passé été contactés par Cédric Prison qui souhaitait à tout prix médiatiser son histoire et donc faire parler de lui.
Stéphanie Lamy, cette manière de lutter en manifestant par exemple, parfois avec des hommes dans la même situation, c'est l'un des moyens d'action de ces pères séparés, c'est fréquent ?
C'est très fréquent d'ailleurs, il y a encore ça marche très bien auprès de la presse quotidienne régionale qui n'est absolument pas formée à ces techniques de manipulation de l'opinion. En fait, c'est une technique assez connue qui s'appelle astroturfing, qui fait croire un engouement populaire autour de discours litigieux, de la désinformation. La désinformation ici étant que les pères seraient discriminés parce qu'hommes devant la justice. Donc, on va avoir des journalistes, surtout de la presse quotidienne régionale, qui vont se déplacer, filmer ces manifestations et donner en fait une audience, un écho à ces revendications qui sont fondées sur la désinformation. Jamais, d'ailleurs, on interroge les ex sur la situation exacte. Donc, ces articles de presse ou ces reportages dans la presse régionale vont sortir sans avoir l'avis de l'ex-compagne.
Sans contradictoire, exactement. Voilà. Il y a eu des précédents en la matière. On pense par exemple aux hommes qui se sont perchés en haut des grues sur un chantier naval à Nantes. En 2013, quel était leur objectif à ces papas-là ?
Alors, les objectifs de ces deux hommes qui se sont perchés sur la grue jaune étaient d'obtenir des lois qui instaurent la résidence alternée des enfants par défaut lors de toutes les séparations, alors que, en fait, il faut stipuler que chaque cas est différent. Il faut juger en fonction des besoins de l'enfant, en fonction du contexte familial. Et tout, il voulait botter en touche toute question de violence conjugale. Alors, on sait aussi que Serge Charnay, par exemple, l'un des pères Grue, avait déjà été condamné pour enlèvement de son enfant, son fils, et qui, après, l'a refait et a été condamné à un an de prison ferme. En descendant de la grue, ils ont d'ailleurs tenu des propos extrêmement sexistes à l'égard de la justice. À la ministre de la Justice en disant que de toute manière les femmes n'étaient pas en capacité de juger les hommes et les pères.
Et on revient sur les premiers arguments. Elisa, l'enquête sur la disparition s'est accélérée le 24 mars dernier.
Quatre jours après la disparition, Cédric Prison est interpellé à Méda, au Portugal. En fait, il circulait à bord de sa voiture avec ses deux enfants lorsqu'il s'est fait contrôler par la police locale. Il va fournir une identité, son fils va en donner une autre, et c'est ce qui va attirer l'attention des officiers de police qui vont réaliser qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est soupçonné d'enlèvement, qui est activement recherché. Tout va s'enchaîner, il va être placé en garde à vue, puis les autorités portugaises ont retrouvé les corps de son ex-compagne, de sa compagne actuelle, enterrée dans un lieu isolé. Et quant à Cédric Prison, il est poursuivi au Portugal, notamment pour homicide aggravé et enlèvement.
Ce qui pose aussi question, ce sont tous ces éléments qui ont été retrouvés dans sa voiture.
Oui, des éléments qui laissent à penser que Cédric Prison avait prévu, planifié son départ. Effectivement, les autorités ont retrouvé tout un attirail dans sa voiture, plusieurs fausses plaques d'immatriculation, 17 000 euros en liquide, une arme, de fausses pièces d'identité, des objets qui semblent indiquer qu'il s'était véritablement équipé avant de partir. Pour ce qui est de la manière dont il a tué les deux victimes, les résultats d'autopsie sont tombés mercredi. Ils révèlent qu'elles sont mortes par asphyxie. Donc pour l'heure, Cédric Prison, il est toujours au Portugal, il pourrait être extradé, ce sont des démarches qui vont prendre du temps. Ses deux enfants, quant à eux, ils ont été pris en charge ce jeudi et reconduits en France.
Merci Elisa pour ces explications. Stéphanie Lamy, pour rappel, vous êtes chercheuse, militante. En 2024, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « La terreur masculiniste », publié aux éditions du Détour. Vous avez fait des recherches notamment sur ces groupes de pères séparés. En quoi leur discours baigne dans le masculinisme ?
Alors déjà, définir le masculinisme, c'est une branche de l'antiféminisme. Il y a plein de définitions différentes, mais toutes les définitions ont deux choses en commun. on parle d'action collective, donc c'est pas juste le sexisme ou la misogynie, la haine des femmes à titre individuel, mais vraiment cette mise en commun de la haine des femmes et la mise en action, en pratique. Et de l'autre côté, c'est l'effacement total de la perspective des femmes. Donc l'androcentrisme, centré uniquement sur la souffrance masculine. Et ça, on le retrouve réellement dans les discours de Cédric Pridon, et d'ailleurs plus largement au sein de tous ces milieux radicaux masculinistes de la mouvance des pères séparés, parce qu'il faut savoir que les masculinismes sont multiples, parfois se font concurrence, parfois vont dans le même sens, parfois la conjugalité, c'est même quelque chose qui estime être une taxe sur l'homme, c'est pour le MGTOW, mais pour les pères séparés, ils ont à peu près les mêmes discours.
Est-ce qu'on sait à quel moment ces mouvements de pères séparés sont apparus ? Est-ce que c'est récent ?
Oui. Alors, ces mouvements de pères séparés ont apparu dès la fin des années 60, début des années 60, partout dans le monde occidental. Ce n'est pas spécifique à la France. Donc, c'est en réaction aux avancées des droits des femmes, notamment en matière de divorce, de l'autorité parentale, qui était perçue et qui était d'ailleurs légalement l'autorité paternelle. Et à partir du moment où on considérait que l'autorité parentale pouvait être partagée par les mères et par les pères, il y a eu une résistance, un backlash, un retour de bâton qui s'est organisé de manière assez corporative. Puisque nous sommes toujours dans une société sexiste, ces discours-là continuent en fait à abreuver même la logique judiciaire, aussi dans les médias. On voit souvent, lorsque les faits de féminicide ou des violences conjugales sont relayés dans la presse, on va dire que c'est la rupture conjugale qui aurait été à l'origine des violences. On dit que c'est le droit de garde qui a suscité les violences. Ce n'est pas ça, c'est la violence même de l'auteur. Donc on est encore dans cette logique-là, on a beaucoup de mal à se défaire de la naturalisation de l'autorité paternelle.
Dans le discours de Cédric Pridon, il y a cette idée selon laquelle il est victime d'un système. Est-ce que cette posture victimaire, elle se retrouve chez les autres pères séparés qui militent aussi pour la garde de leurs enfants ?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce ressenti de déclassement identitaire justifie le militantisme, voire le passage à l'acte violent, en prenant pour cible soit leurs ex, soit des huissiers qui viennent les déloger, soit des avocats, soit des juges, soit les enceintes judiciaires. Donc, et les journalistes aussi, donc, et les féministes. Donc ils sont très larges hein, dans leur cible, mais ce discours victimaire sert de justification.
Quel est le risque de passage à l'acte violent chez ces militants, comme ça semble être le cas ici avec Cédric Pridon ?
C'est très difficile à dire, notamment parce qu'on manque de recherche sur ce milieu spécifique. Alors, il existe pas mal de recherches pour décrypter leur discours, pour montrer comment ils s'organisent.
Mais est-ce qu'ils s'organisent, sur les réseaux sociaux, dans des groupes, dans des associations ? Il y a une espèce de ramification via les réseaux sociaux. Comment, eux, ils s'organisent entre eux ?
Il y a les deux. Donc, vous avez des associations qui ont pignon sur rue, vous avez des radios libertaires, vous avez des médias qui leur sont dédiés, vous avez des influenceurs, Papa Solo, vous avez également des éléments libres qui vont rejoindre différents groupes, vous avez une critique à l'intérieur des groupes sur Facebook, par exemple, des organisations plus structurées, en disant que SOS Papa ne serait pas assez radical, qu'il faut du coup passer à l'acte. Donc on est aussi dans des intentions multiples de ces hommes qui peuvent passer à l'acte sur leurs ex, ça c'est sûr.
Merci Stéphanie Lamy pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode, merci Elisa également, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.